enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez commencé une bonne journée. Peut-être ce matin, il y en a qui ont commencé en chantant. Peut-être que Papa Jean a chanté « Contempler mon Dieu sur son trône ». Mais peut-être que quelqu'un a chanté quelque chose, parce qu'il y a d'autres chants, hein, des fois, du dimanche matin. Peut-être que quelqu'un a chanté en si bémol mineur, mais comment est-ce que ça se fait qu'il n'y a plus de café? Refrain, ah c'est incroyable ça, ah c'est incroyable, comme ça. Des fois on se réveille, on est bien, on est content, tout va bien. Puis des fois on se sent moins bien quoi, hein? Ça vous arrive pas des fois de vous réveiller le matin, vous regardez dans une glace, puis vous dites mais qu'est-ce que t'es moche, non? Hein? Moi ça m'est arrivé des fois. Un jour j'étais là comme ça et ça m'est revenu ce refrain. Il est beau le lavabo, il est laid le ribet. Et après on a besoin de se remettre, hein, comme ça. Et quand j'étais au Centrafrique, on chantait un petit chant qui disait en sango Londo Yembi, je suis béni, c'est-à-dire je suis béni, chaque jour de ma vie je suis béni, le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Alors on avait rajouté un petit couplet qui disait Bieke Pendere, c'est-à-dire je suis très beau. Hein? On chante pas ça souvent, hein? Je suis très beau, chaque jour de ma vie, je suis très beau. On a un peu du mal à chanter ça, non? Hein? C'est pas culturel, quoi. On se sent pas toujours bien. Et pourtant, le Seigneur nous a dit que nous sommes des merveilleuses créatures. Si nous voulons pouvoir réconcilier les autres avec Dieu, les réconcilier avec eux-mêmes, il faut qu'on soit aussi quand même déjà en accord avec soi, tout seul, se réconcilier tout seul. C'est pas toujours facile, hein, quand même. Hein. Ce matin, j'ai envie de vous parler de la mission. Parce que l'Église, c'est son butin. L'Église existe à travers la mission, la grande mission. Le texte fondateur, vous connaissez ça, c'est dans Matthieu. On va lire. Aujourd'hui, on va tourner pas mal de pages dans la Bible. Matthieu 28, 1. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la grande mission. La grande mission, celle pour laquelle Jésus est descendu du ciel. Matthieu 28, 1, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils l'ont vu, ils l'ont adoré. Mais quelques-uns avaient des doutes. Jésus, s'étant approché, leur a parlé ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'an, on ne sait pas. Hein, vous pensiez que j'allais vous le dire, hein? Mais je le sais, mais je ne vous dirai pas. Non, jusqu'à la fin du monde. Hein? Jusqu'à la fin du monde, le Seigneur est avec nous toujours, toujours. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que Jésus est avec nous? Est-ce qu'il y a une condition? Est-ce que c'est conditionnel? Moi, il y en a, ils n'osent rien dire parce qu'ils disent, lui, des fois, il a des questions pièges, alors on ne sait pas. Il vaut mieux voter suisse. Hein. Alors, je dis pas qu'il y a des conditions, mais quand même, que cette affirmation de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est la fin d'une grande phrase. D'accord? Et le début de cette grande phrase, c'est « Allez ». Donc je serais quand même tenté de dire que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour autant que nous soyons allés. Non ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il dit « Allez et je suis avec vous ». Restez et vous restez tout seul. Non, c'est logique. Allez et je suis avec vous tous les jours. Donc, si nous allons, il est avec nous. Mais si nous n'allons pas, eh bien, il n'est pas là. Non, est-ce que vous avez l'impression que ma lecture est fausse ? Bon, alors est-ce qu'on peut aller et rester là ? C'est autre chose encore. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que l'Église existe pour la grande mission. Est-ce que vous avez remarqué dans les évangiles que Jésus n'a jamais parlé de l'Église ? Jésus a annoncé le royaume de Dieu. Et il a demandé aux disciples, il a dit, allez, proclamez le royaume de Dieu. Oh, il y a bien deux versets qui emploient le mot église dans Matthieu 16 et Matthieu 18, je crois. Mais avec ce sens de l'assemblée gouvernante. Mais l'église, comme nous le comprenons nous-mêmes, est très peu annoncée ou de façon allégorique dans les évangiles. Ce que Jésus prêchait, annoncé et nous a demandé d'annoncer et de vivre, c'est le royaume de Dieu. Je dis, attendez, doucement, je n'ai pas dit que Jésus est contre l'Église. Hein. Mais il faut comprendre que l'Église vit dans le royaume de Dieu. L'Église vit dans le royaume de Dieu. Le but, c'est le royaume de Dieu. Le but, c'est là où Jésus règne. Le but, c'est la royauté de Dieu. Le but, c'est le gouvernement de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Le but en lui-même, c'est pas l'Église. L'Église est faite pour le royaume. Mais le royaume, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Jésus envoie ses disciples pour achever cette œuvre que lui-même a faite. Comme Adam et Ève ont été mis sur la terre pour continuer la création de Dieu, aller multiplier, c'est-à-dire soyez créateurs avec la vie que je vous ai donnée. De même, l'Église est sur la terre pour continuer la création que Christ a faite de l'Église lorsqu'il est mort sur la croix et que par sa mort, il a donné naissance à l'Église. Comme Adam, dans ce profond sommeil dans lequel il a été mis dans le jardin d'Éden, quand il s'est réveillé, il avait donné naissance à son épouse. Eh bien, lorsque Christ est mort sur la croix à travers ce profond sommeil de la mort, lorsqu'il s'est réveillé, il avait donné naissance à la nouvelle femme. Il avait donné naissance à son Église. L'autre jour, on parlait du réveil avec une petite, la pastorale de la ville à Mulhouse, et je disais comme ça quelques mots sur le réveil, et je disais que dans la Bible, le premier réveil, eh bien, c'est lorsque Adam s'est réveillé, et pour lui se réveiller, eh bien, le réveil, c'était découvrir sa femme. Bon, il faut commencer par le début, quoi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de réveil aujourd'hui encore. Mais le réveil, la puissance de Dieu, c'est la puissance du royaume dans laquelle Dieu exerce s'exercent tous les effets de la nature, des qualifications, des qualités de Dieu. Cette promesse, on peut lire aussi dans Acte 1, si vous voulez, où on retrouve aussi Acte 1, 8. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus donnait à la grande mission vers les nations, il lui donnait ses dimensions. Et ses dimensions, eh bien, c'est qu'elle n'avait pas de dimension. C'est la dimension jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que pour chaque personne sur un globe, il y a toujours une extrémité et chacun peut toujours aller vers l'extrémité. Jésus a dit, commençant par Jérusalem, et puis en Judée, c'est la région où se trouve Jérusalem, en Samarie, c'est celle qui est à côté, où il y a ces espèces de païens qui prétendent quand même être un peu religieux, mais avec qui on est fâché. Il faudra peut-être commencer par eux, et puis après, il faudra aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et heureusement que des missionnaires sont venus à une certaine période, sont venus en Gaule, hein, et ils ont visité nos ancêtres, hein, les Gaulois. Et aujourd'hui, nous connaissons Jésus-Christ. Jésus n'a pas innové quand il a parlé de la grande mission, parce qu'il a développé ce qui est dans le cœur de Dieu depuis toujours. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Dieu avait déjà, avant même la constitution du peuple Israël, avant cela déjà, avec Abraham, qu'on a appelé l'ami de Dieu, le père des croyants, eh bien Dieu avait déjà ce programme. C'est la bénédiction, sa bénédiction sur toutes les familles de la terre, sur toutes les nations, sur tous les pays, sur toutes les ethnies. Dieu désire que ça, être connu de tous les hommes à la surface de toute la terre. Il désire que l'évangile de Jésus-Christ soit répandu partout, partout, partout. Et il a confié cette tâche d'annoncer le royaume de Dieu à son église, hein, à l'église que Jésus-Christ s'est acquise lui-même par son propre sang. Aujourd'hui, l'apôtre Paul a dit dans l'épître aux Galates que ceux qui sont fils d'Abraham, ce sont ceux qui le sont par la foi. Bien sûr, nous continuons d'aimer le peuple d'Israël que Dieu s'est choisi, que Dieu aime. Mais aujourd'hui, spirituellement, tous ceux qui sont dans la foi sont les fils d'Abraham. Car ceux qui sont fils d'Abraham, ce sont ceux qui le sont par la foi. Et nous le sommes par la foi, nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes les héritiers de ce que Dieu a fait depuis, parce qu'il l'a, il a conçu dans son cœur, depuis toujours. Et ce que Jésus a donné comme dernier commandement à son église avant de partir, eh bien, c'est l'expression de ce qui était dans le cœur de Dieu depuis toujours. Depuis toujours, Dieu veut que tous les hommes, hein, même dans le jardin d'Éden, hein, avant même que Adam et Ève n'aient péché, Dieu leur dit, allez, remplissez la terre. La vision de Dieu est une vision universel. C'est pas notre vision pour notre quartier, pour notre ville. C'est même pas pour notre pays. C'est même pas pour notre petite Europe. Mais ce que Dieu veut, c'est que le monde soit rempli de la connaissance de l'Éternel. C'est notre tâche, c'est notre rôle à chacun avec la mesure que Dieu nous a donnée. Mais c'est notre tâche, c'est notre mission, c'est la grande mission. Alors, la question c'est comment l'Église naissante à partir dans le livre des Actes, comment l'Église a vécu à la suite de cet ordre? Qu'est-ce que l'Église a fait? Comment elle a compris l'ordre de Dieu et comment elle s'est mise au travail? Eh bien, on va voir ça un petit peu, on va parcourir un petit peu le livre des Actes si vous avez une Bible. Vous pourrez suivre en même temps, sinon vous pouvez écouter. Si vous n'avez pas de Bible, hein, vous avez grand tort. Il y a là-bas de quoi vous en acheter une pour une somme très modique. Et donc, dans le livre des Actes, on va voir comment l'Église, hein, a répondu. Et c'est une réponse qui est, un petit peu ambiguë. C'est une réponse qui est un petit peu mitigée. Par exemple, hein, on sait que pendant plusieurs années, eh bien, l'Église naissante était uniquement, évidemment, constituée que de personnes qui étaient d'origine juive. Et bien sûr, Jésus est un juif, les 12 apôtres sont des juifs, Jésus a dit le salut vient des juifs, et les juifs ont témoigné à des juifs, et eux-mêmes, culturellement, ils étaient complètement coupés, séparés des autres peuples qui étaient autour d'eux, ils n'allaient pas chez eux, c'était une nation qui avait une culture, une philosophie extrêmement fermée, cloisonnée sur elle-même. Donc pendant tout un temps, eh bien, l'Église a grandi, mais elle a grandi de façon complètement interne au monde, à la sphère juive. Et pendant tout un temps, rien n'a changé. Mais pourtant, les apôtres avaient bien entendu l'ordre de Jésus. Jésus leur avait bien dit, en commençant par Jérusalem et la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus leur avait bien dit, hein, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous soyez mes témoins jusqu'au bout. Mais il semble que pendant tout un temps, eh bien, ce ne soit pas réellement rentré dans leur, dans leur tête, dans leur compréhension, et en tout cas pas dans leur, leur acceptation. Peut-être que c'était quelque chose de intellectuellement qu'ils avaient entendu, mais pour eux, il semble qu'ils avaient surtout l'impression que si d'autres devaient accepter Jésus, ils devaient aussi devenir juifs comme eux. Ils devaient passer par le même chemin. Et les choses n'ont pas changé jusqu'à ce que le nombre des chrétiens ne faisant que grandir dans Jérusalem et les apôtres restant tous là, eh bien l'œuvre n'avançait pas. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a fait quelque chose pour que tout le monde soit obligé de sortir et pour commencer réellement la grande mission qui est son plan. Alors est arrivée une persécution. Et une grande persécution dans Jérusalem a coûté la vie à Étienne et a provoqué un mouvement anti-chrétien, ce qui bien qu'ils ont dû tous s'en aller. Chapitre 8, verset 1. Saul, qui sera plus tard le grand apôtre Paul, hein, mais qui à ce moment-là était, j'allais dire entre guillemets, seulement Saul. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Tout le monde est parti maintenant, sauf les apôtres. Alors, pourquoi si les apôtres ne sont pas partis? Ben, j'allais dire, de leur part, c'était quelque chose de très courageux, parce qu'ils risquaient plus en restant à Jérusalem. Très courageux, mais je ne sais pas si c'était très sage. Je sais pas si c'était vraiment ce qui était le plus indiqué. Jésus a formé une équipe de 12 apôtres pour évangéliser le monde entier. Et voilà que les 12, malgré la pression de Dieu, décident de rester quand même là, à Jérusalem. C'est un peu curieux. Mais ils n'étaient pas rentrés à ce moment-là dans la compréhension que Dieu voulait sauver les païens, que Dieu voulait sauver les gens des nations. Alors ils sont restés ici. Et au lieu que ce soit les 12 qui aient commencé réellement l'évangélisation du monde, alors ce sont les 7 diacres qui s'y sont mis. Vous savez, quand vous avez dans la Bible, vous avez toujours 12, 7. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais c'est intéressant, ça a un sens. Voilà verset 5. Philippe, l'un des 7, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Voilà, il a commencé. Il est rentré dans le plan de Jésus. Et avec la puissance du Saint-Esprit qu'il avait reçu, voilà que des foules ont commencé à entendre et à croire en Jésus aussi parce que Philippe avait cette puissance, il se faisait des prodiges, des miracles, il y avait des guérisons, des démons étaient chassés, si bien que toute la ville était dans une grande effervescence, des foules entières commençaient à croire en Jésus. Et finalement, le bruit de la conversion de ces Samaritains est revenu jusqu'à Jérusalem. Alors les apôtres se sont dit, il faut quand même qu'on aille aider Philippe. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Voilà deux des apôtres qui sortent de leur fief et qui sont allés donner un coup de main à Philippe. Alors ils sont restés avec lui un temps, ils ont prié pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont prophétisé, parlé en langue, etc. Et ils sont retournés chez eux à Jérusalem, verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem. Mais ils commencent à faire des progrès en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Mais ce qui est un peu curieux, c'est que les 12 n'aient pas compris que ce qui commençait en Samarie devait être poursuivi, devait être fortifié. Pourquoi est-ce que sur les 12, il n'y en a pas un ou deux ou trois qui aient dit « Bon, écoutez les gars, vous restez à Jérusalem 8 ou 9, et puis nous, on va aller puisque Dieu commence une œuvre là-bas, chez des païens, des Samaritains, alléluia, ils vont être sauvés. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on les enseigne, il faut qu'on leur apprenne comment sert Dieu, qui est Jésus, tout ça. On va aller s'installer là-bas, on va rester, non ?» Sur les 12, pas un. Ils sont allés, ils ont donné un coup de main, ils ont fini, ils sont retournés. Leur mentalité n'était pas encore gagnée à l'évangélisation du monde. C'était pas encore dans leur plan. Alors Philippe a continué son travail et c'est Philippe qui, juste après dans le paragraphe suivant, c'est Philippe qui a été amené par Dieu à rencontrer le premier Africain qui a reçu l'évangile, un ministre éthiopien. Et c'est Philippe qui est, et c'est donc Philippe, un diacre, qui est devenu évangéliste, qui a été lui prêcher. C'est pas un des apôtres. Parce que Philippe était ouvert à la compréhension que Dieu veut sauver les gens des nations. Philippe était ouvert. Philippe s'est pas posé la question, est-ce que nous le baptiserons ou pas? Mais pour lui, il était chaud pour ça. Il était d'accord. Parce que lui, il avait compris. Mais les 12 auraient été incapables de faire ce travail. Courir derrière un païen, courir derrière cet Africain, lui prêcher l'évangile, lui demander de se convertir et le baptiser. Ah ben attends, c'est nous le peuple de Dieu. Leur mentalité n'était pas changée, mais Philippe était rentré dans cette compréhension. Un peu plus loin, vous trouvez au chapitre 10, voilà que Pierre s'est trouvé un jour, il était en train de prier sur le toit de sa maison, vous vous rappelez de cette histoire, et voilà qu'il a eu une vision. Pas une vision intérieure, vraiment, il voyait devant c'est comme si ses yeux le voyaient, en extase. Et il a vu une grande nappe dans laquelle il y avait tous les animaux de la terre, c'est-à-dire les animaux, selon la loi de Moïse, réputés mangeables, et les animaux réputés impurs, immangeables. Et le texte précise bien des reptiles, etc., des animaux qui faisaient horreur aux Juifs, d'après la loi. Et voilà que la parole de Dieu lui dit, Pierre, mange. Pierre a dit, ça jamais. Devant Dieu, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais mangé d'une chose impure comme ça. Dieu lui dit, mange. Et Dieu lui dit, écoute-moi bien, Pierre. Ce que moi j'ai purifié, toi ne le déclare pas impur. Et la vision est revenue 3 fois. Mais Pierre comprenait pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors après, pendant ce temps, il y a un monsieur, un Romain, un païen, un ignoble païen, qui chez lui, parce que c'était un homme qui aimait Dieu, ah oui, ça arrive, il aimait Dieu, il priait Dieu, il se comportait avec justice, et voilà qu'il a eu lui-même la visite d'un ange, L'ange lui a donné l'adresse de Pierre pour le faire chercher. Alors il a envoyé des gaillards à lui pour venir chercher Pierre. Et au moment où Pierre avait eu sa vision, voilà que les types arrivent. Et disent, on vient chercher Pierre, tout ça. Et le Saint-Esprit parle maintenant à Pierre pour lui dire, je t'ai envoyé des gens qui viennent te chercher, n'aie pas peur, pars bien avec eux. Vous voyez, déjà il y avait eu une vision répétée 3 fois. Il a fallu la visite d'un ange à Corneille. Il a fallu que Pierre reçoive encore une prophétie pour lui affirmer, non, il n'y a pas de problème, c'est bien moi qui les envoie, pars avec eux. Et à cause de ça, il a accepté de partir. Quand il est rentré Pierre est rentré chez Corneille, il a prêché l'évangile. Avant qu'il ait fini, le Saint-Esprit lui a pas demandé la permission, et il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Pierre était tout surpris. Il dit, ah bon? Ah, c'est pour eux aussi? Mais nous connaissons ces textes. Où Jésus lui avait dit clairement à l'avance, et lui-même il l'avait dit de sa bouche, quand il était inspiré le jour de la Pentecôte, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Il savait que Jésus avait dit jusqu'aux extrémités de la terre, mais quand il a vu que ça se réalisait, il était surpris, ils n'avaient pas compris. Et à la fin il se pose la question, il dit, peut-être qu'on devrait même les baptiser, Ça, c'était une grande, pour lui, c'était une grande réflexion. C'était quelque chose de très profond, une remise en cause extraordinaire. Et quand Pierre est revenu chez lui, eh bien, au chapitre 11, on dit que lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles juifs lui adressèrent des reproches. Ils lui adressèrent, on entend bien, Ils lui ont reproché d'avoir été sauvé des âmes. D'avoir été convertir des païens. Ouais, tu es allé chez eux, etc. Pierre a dû se défendre, se justifier d'avoir gagné des âmes. C'est quand même gros, Il a dit, écoutez, c'est pas ma faute. C'est pas moi qui ai commencé. C'est le Saint-Esprit qui a fait tout seul. Alors bon, finalement, ils ont accepté. Alors, comment l'Église est devenu missionnaire. Ben, jusque-là, il ne l'était pas tellement, vous voyez, à part des petits cas sporadiques comme ça. Chapitre 11, verset 19. On revient à ceux qui avaient été chassés de Jérusalem par la persécution. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche. Attention, annonçant la parole seulement aux Juifs. Vous voyez, on est toujours dans le même état d'esprit. Il y eut, voilà une lueur d'espoir. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. Et ils ont converti tout un tas de païens comme ça. C'est des anonymes. La première église, faut bien comprendre que les premières églises avec des païens ont été fondées par des anonymes. Et les apôtres n'y étaient pour rien du tout, alors que c'était quand même leur rôle, c'était quand même leur tâche. Et c'est des anonymes, des gens qui ont été obligés de partir avec leurs baluchons sur l'épaule, en s'enfuyant, qui ont fondé les premières églises. Verset 22, « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » Ils ont envoyé Barnabas, pas un des 12 s'est déplacé. Barnabas, bon, un type très bien par ailleurs, hein. C'était sûrement un des meilleurs éléments, ok. Mais enfin, on se dit quand même, mais comment ça se fait qu'eux, ils ne se sont pas allés? Ils n'étaient pas dans le coup ou quoi? Alors Barnabas a fait une œuvre magnifique. Il a compris qu'il n'était pas suffisant tout seul. Il est allé chercher Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, et tous les deux, ils ont fait une grande, grande œuvre. Hein. Jusqu'à ce qu'au chapitre 13... Hein, verset 1, nous lisons que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Il y avait donc Barnabas, Siméon appelé Niger, donc un Africain, Niger, ça veut dire noir, un Africain, donc une église pluriethnique, une église ouverte. Lucius de Cyrène, donc c'est aussi sur la côte africaine, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, donc un type un peu louche, et Saul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous avez noté qu'ils ne les ont pas envoyés. Ils les ont laissés partir. C'est pas tout à fait la même chose. Si c'est eux qui les avaient envoyés, quand ils auraient eu des difficultés, ils auraient envoyé un fax disant, oh, ça va pas, venez nous secourir. Mais c'est pas l'Église qui les a envoyés. C'est le Saint-Esprit. L'Église les a laissés partir et ils savaient qu'ils étaient envoyés par le Saint-Esprit. Mais vous voyez, les premiers missionnaires, parce que nous on sait maintenant qu'on a lu la suite du livre, on sait que ça c'est la première grande équipe missionnaire. Mais la grande équipe missionnaire n'est pas partie de Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, on n'avait pas la mentalité missionnaire. La première équipe missionnaire est partie de la première Église missionnaire. À partir de Acte 13, l'église de référence du Nouveau Testament, c'est pas Jérusalem, c'est Antioche. L'église pluriethnique, l'église où peuvent cohabiter, comme Paul l'a décrit plus tard, où il n'y a plus ni juifs ni grecs. C'est cette église-là, c'est cette église missionnaire qui est capable de recevoir un ordre missionnaire, qui est capable d'envoyer, de mandater des missionnaires, qui est capable de soutenir, qui est capable de conférer de l'autorité spirituelle à une équipe missionnaire, parce qu'ils sont dans le plan de Dieu, parce que ça c'était leur vie. Alors, chapitre 13, verset 5, arrivés à Salamine, Saul et Barnabas annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, voyez, eux-mêmes continuaient, bien qu'envoyés en mission au loin, comme il y avait à cette époque des Juifs dans toutes les villes pratiquement dans l'Antiquité, dans tout l'Empire romain, il y avait des colonies juives dans toutes les villes et donc des synagogues. Donc ils ont commencé par refaire ça, par aller dans les synagogues. Encore, ils sont arrivés à une autre ville qui s'appelle Antioche, mais c'est une autre Antioche, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Ça s'appelle Antioche de Pisidie. Chapitre 13, verset 14. Étant entrés dans la synagogue, de nouveau, ils ont prêché. Mais là, tout ce chapitre montre comment, finalement, les Juifs n'ont pas reçu cette parole de Dieu, sauf quelques-uns. Et on arrive à la fin du chapitre, où on voit que, verset 42, « Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux, c'est-à-dire des païens, qui aimaient Dieu et qui voulaient servir l'Éternel, mais en se faisant juifs. Ils suivirent Paul et Barnabas. Verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, il dit aux Juifs, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Voilà la vraie, voilà le vrai commencement de la mission mondiale. C'est là seulement que commence vraiment l'évangélisation du monde. Nous nous tournons vers les païens. C'est maintenant l'objectif. Paul a compris que maintenant c'est son objectif. Bien sûr, partout où il ira, il sauvera le plus possible de ses concitoyens. Il sauvera le plus possible de juifs. Mais il sait maintenant qu'il est l'apôtre des païens. Il sait que maintenant c'est sa vision, c'est sa vie, c'est sa tâche, c'est sa définition même, c'est son identité. Il dira plus tard, je suis l'apôtre des païens. Mais c'est là, il faut attendre là pour le trouver ici. Nous nous tournons vers les païens. C'est le début officiel de la mission. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'au moment où Paul est parti de sa ville, de Antioche, est-ce qu'il n'y avait pas encore des gens à sauver là-bas? Bien sûr. Et ça, c'est un petit peu le problème de certaines églises où on dit, on se tournera vers la mission quand on aura fini ce qu'on a à faire ici. Ben alors, on n'ira jamais. Ben, on n'ira jamais. J'ai connu un groupe d'églises qui étaient pourtant des gens qui avaient vraiment la passion de l'évangélisation, de sauver les âmes, mais uniquement dans la région où on est. Et quand on leur parlait d'évangélisation, de mission, d'aller au bois, ils disaient « Oh non, non, il y a encore du boulot ici, quand on aura fini ici ben, ?» Ils n'ont jamais commencé la mission, parce qu'il y a toujours du boulot à côté de nous. Mais si nous, on avait attendu que tout Israël soit converti, personne ne serait jamais venu en Gaule pour sauver nos ancêtres. Hein. Pour autant que vous reconnaissez les Gaulois comme vos ancêtres, hein, c'est... Ça peut être partagé, hein, je comprends. Mais on est content que des missionnaires soient partis de quelque part pour nous annoncer l'évangile. Et là où ils étaient, il y avait encore certainement, forcément, il y avait encore du travail à faire. Mais ils ont accepté de partir et nous avons reçu la vie éternelle. Et aujourd'hui, c'est notre tâche. Aujourd'hui, c'est à nous de savoir ce que nous allons faire. C'est une question de mentalité, c'est une question de vision, c'est une question de révélation. Les 12 ne l'ont pas eu. Quand Paul a dit, après avec Barnabas, ils ont discuté avec les autres apôtres, il a dit, moi, je suis l'apôtre des païens, comme Pierre est l'apôtre des circoncis. Si c'est ce que Dieu lui a demandé de faire, alléluia, c'est formidable. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que il y avait 12 apôtres qui avaient reçu la mission d'évangéliser 3 ou 4 millions de juifs, et il y en avait seulement 2 qui avaient la vision de gagner le monde entier. Il n'y a pas un peu un problème? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Mais ils avaient à cœur de le faire. Et ils sont partis pour le faire. L'Église est missionnaire ou elle n'est pas l'Église. La mission n'est pas une option. La mission, c'est pas un truc qu'on choisit, que l'Église prend ou ne prend pas, que certaines églises diront « Ah ben oui, nous, on a une fibre pour ça !» Mais si t'as pas la fibre pour ça, alors franchement, je pense que c'est une Église qui a un problème. L'Église qui ne voit pas plus loin que juste autour d'elle est myope. Elle est myope, elle va se cogner quelque part, elle va se faire très mal. Il faut voir que Dieu nous a confié à tous l'extrémité. Bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de partir. Tout le monde n'a pas un appel personnel pour partir et pour demeurer loin, etc. Et toutes les églises, peut-être je pense des fois des églises qui sont petites, qui avec une petite taille ne peuvent pas à elles seules peut-être envoyer des gens très loin. Ils n'ont pas simplement peut-être les moyens financiers, etc. Et puis il n'y a pas quelqu'un au milieu d'eux qui a cet appel. Et bon, ok, d'accord, mais ça n'empêche pas de s'intégrer, de participer au travail qui se fait ailleurs, de se réunir, d'unir nos efforts. 3-4 églises sont capables d'envoyer 1, 2, 3 missionnaires. Si on le fait pas, il faut pas dire, vous voyez, c'est une question de mentalité. C'est une question d'être persuadé. C'est une question de l'avoir dans le cœur. C'est une question de comprendre que c'est la nature même de l'Église. Et que si l'Église ne le fait pas, elle est en contradiction avec celui qui est le chef de l'Église. Celui qui nous a envoyé, qui a dit « Allez, et je suis avec vous. Allez, et je suis avec vous. » Monsieur Burkhardt, qui était le fondateur de la mission avec laquelle on avait travaillé en Afrique centrale, quand des fois des gens lui disaient « Oh, moi j'irais bien, mais j'ai pas d'appel. » Et ça, lui, bon, honnêtement, il aurait envoyé tout le monde. Hein, bon. Mais quand des fois des gens lui disaient « Moi j'ai pas l'appel pour aller », il leur disait « Est-ce que vous avez un appel pour rester ?» Ah oui, il disait, le texte dit « Allez ». Si vous restez, il vous faut un appel spécifique. Tandis que pour aller, c'est l'appel qui est donné à tout le monde. Vous avez un appel pour rester ? Ah mais lui, il aurait envoyé tout le monde. Hein. Jésus dit, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée d'abord à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, on entend souvent dire que la fin est là, la fin est imminente, Jésus est à la porte. Et je le crois, et c'est vrai, et je le souhaite, et même, je vous dis honnêtement, s'il pouvait revenir aujourd'hui, avant midi, on est tous d'accord. Alléluia. On part tout de suite. Maintenant, moi, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute quand on nous dit que Jésus peut revenir n'importe quand. Je vais vous dire honnêtement, j'ai un petit doute. Parce que le signe le plus concret, le plus clair que Jésus a dit, il faut que toutes les nations entendent la bonne nouvelle. Et le mot grec pour nation dans ce texte, c'est pas la nation politique. C'est ethnos qui décrit une race, une ethnie. Et combien il y a aujourd'hui dans le monde d'ethnies qui n'ont jamais entendu l'évangile? Il y en a des centaines. Des centaines. Nous étions au Tchad. Au Tchad, il y a à peu près 150 langues maternelles. Ok, un petit pays, enfin grand en surface, mais peut-être 7-8 millions d'habitants maximum, 150 langues maternelles. Il y a des ethnies où on sait, on les appelle aujourd'hui en jargon les non-atteints, on sait que personne n'a jamais entendu l'évangile chez eux. Mais Jésus dit, il faut d'abord, premièrement, que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les ethnies, alors viendra la fin. Et moi je crois pas. Honnêtement, je crois que ça se rapproche, je crois que ce travail se fait, je crois qu'il y a une accélération, je crois qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, il y a des choses qui sont dans la vitesse, qui se multiplient, qui vont nous permettre d'atteindre des buts bien plus rapidement. Mais c'est quand même ce que Jésus a dit. On veut hâter le retour du Seigneur. Alors touchons les ethnies qui n'ont jamais entendu l'évangile. C'est ça qui hâte le retour du Seigneur. C'est pas les calculs, c'est pas nos souhaits. Il nous faut aussi, si on parlait tout à l'heure de réveil, eh bien le réveil, c'est le réveil, c'est le réveil de ceux qui dorment. Quelqu'un a dit, une fois je dis toujours, quand quelqu'un dit j'attends le réveil, oh nous on attend le réveil, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quelqu'un, je vois dans ma tête quelqu'un qui est allongé là, hop, il dort, et puis il y a une petite table de chevet à côté de lui, et puis un gros réveil. Eh bien il attend le réveil. Voilà. Eh oui, quand quelqu'un dit « j'attends le réveil », il est seulement en train de dire « je dors ». C'est pas glorieux de dire « j'attends le réveil », parce qu'on est seulement en train de dire « je dors ». Tandis que si on dit « je me réveille », alors ça c'est autre chose. Là on est en train de faire quelque chose déjà, on sort du coma déjà. Jésus est le premier missionnaire. Hein. Être missionnaire, ça veut dire changer de culture. Hein. Et Jésus a changé de culture. Il est descendu du ciel dans une société qui était une culture parfaite. Hein. La société où tout le monde s'aime. La société où tout le monde s'apprécie. La société où tout le monde se comprend. La société où il n'y a aucune injustice. Hein. Jésus a décidé de changer de culture. Hein. Il est venu affronter notre culture. Hein. Il est venu sur la terre. Hein. Et il s'est intégré à une culture où les gens ne s'aiment pas. Se tirent dans les pattes. Se détestent, se haïssent, se combattent, ne se comprennent pas, communiquent pas. Jésus s'est intégré dans cette culture-là, c'est le premier missionnaire. Il est venu avec une mission, il fallait les sauver. Il est venu avec la mission de Dieu. Mais il nous a laissé de finir la mission qu'il a commencée. Le défi de la mission, c'est de faire des disciples. Pas des adeptes, pas des membres, des disciples. Et tout ce qui, au loin ou auprès, contribue à faire des disciples, c'est-à-dire à les multiplier, à les faire grandir, à les faire mûrir, à les faire devenir forts, à les faire se multiplier, à les faire s'organiser, à les faire vivre en église. Tout ça, c'est la mission. n'est pas parce que vous allez à l'étranger que vous devenez missionnaire. Vous devenez missionnaire si vous allez quelque part dans une autre culture et que dans cette culture, votre objectif consiste à travailler pour les disciples de Jésus-Christ. Là, vous êtes missionnaire. Même si c'est à travers un boulot séculier, vous êtes missionnaire. Mais nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, je vous pose la question à chacun d'entre nous. Quelle est notre implication face à la mission? Quelle est notre responsabilité? Le danger, peut-être quelquefois, dans des églises qui sont un petit peu grandes, c'est qu'on peut un petit peu facilement se reposer sur le fait que notre église fait quelque chose, frère, dans ce domaine. Notre église fait quelque chose. J'ai entendu dire qu'il y a, l'autre jour, Christian nous a très bien raconté tout ça, on envoie des conteneurs ici, on fait ça, on va ailleurs, il y en a qui vont là, ici, ailleurs, il y a des pasteurs de temps en temps qui font une sortie, allez-y, on vous couvre. Et donc il se fait quelque chose, quoi. Oui, mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Moi, j'ai trouvé formidable quand Christian nous a dit qu'il avait vu qu'à peu près 200 personnes étaient concernées par tout ce qui concernait ce travail humanitaire, envoi de conteneurs pour les missions, etc. Moi, je trouve que c'est formidable. Bon, maintenant, si on regarde de l'autre côté, ça veut dire aussi 1800 personnes qui sont pas concernées, quoi. Vous voyez, ça dépend toujours sur 2000, je veux dire. Tout dépend toujours par quel bout on regarde les choses. Il y a eu dans le temps, des mouvements missionnaires dans des églises où ils avaient décidé que chaque fois qu'il y aurait 10 chrétiens, 10 chrétiens étaient capables d'envoyer un missionnaire. Parce que 10 chrétiens qui donnent 10%, ça fait un salaire. Donc il disait, le gars, il part, il a le même salaire que nous. Tous les 10 chrétiens, il y avait un missionnaire. Alors peut-être on dira, 10 chrétiens, en tout cas, si on disait qu'en moyenne, il y a un salaire pour deux, on va peut-être dire 1/20, par exemple. Bon, puis aujourd'hui, il y a aussi des charges, il y a des trucs, d'accord, 1/50. Bon, enfin, quand même, sur 2000, après, ça fait combien? Si on disait 1/10, ça ferait 100. Bon, 1/20, je veux dire, ça fait 100. Bon, admettons qu'il y ait beaucoup de charges et qu'on tombe à 50. Mais ben, on n'y est pas, quoi, aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Où Dieu veut nous emmener? Où Dieu veut emmener notre église? Est-ce que nous connaissons quelque chose à l'Asie? Est-ce que nous connaissons quelque chose à l'Inde? Est-ce que nous connaissons quelque chose à la Mongolie? Est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que il y en a d'autres qui s'occupent de ça? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Je pose la question. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Quelle est ta part? J'aimerais, si on peut un instant fermer les yeux, je voudrais vous poser une question. Mais comme c'est une question secrète, si on ferme les yeux, on y répond mieux. Je voudrais, pendant que nous sommes les yeux fermés comme ça, je ne serai pas long, n'ayez pas peur, 2 secondes comme ça, juste vous aider à vous poser 2-3 questions. La première, c'est, est-ce que tu peux facilement récapituler ce que tu fais pour la mission? La deuxième, c'est, est-ce que tu as jamais pensé que Dieu te demandait quelque chose d'autre. Et je voudrais vraiment dire aussi à tous ceux qui sont impliqués et qui font ce que Dieu leur a demandé, que vraiment, vraiment je vous bénis, parce que je sais que beaucoup, beaucoup sont très, très, ont ça très à cœur. Pour beaucoup, je sais, dans ce lieu, pour beaucoup, c'est vraiment un feu. C'est vraiment un fardeau. Et vraiment, j'aimerais vous dire que le cœur de Dieu est satisfait de ce qu'il y a dans votre cœur. Mais honnêtement, je suis aussi obligé de poser la question aux quelques-uns pour qui ce n'est pas le cas. Je voudrais vous demander, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose à faire? Et puis j'aimerais dire aussi que je crois qu'il y a quelques-uns à qui Dieu va peut-être demander de partir au loin. Et au loin, ça ne veut pas forcément dire très loin géographiquement, parce qu'il y a des terres de mission juste à Bourdeville, là. Il y a des terres de mission. Juste en sortant, en traversant 2 rues là, on peut rencontrer une culture différente. avec des gens qui ont besoin d'être sauvés. Et je crois que maintenant, Dieu veut appeler quelques-uns, il parle à ton cœur. Comme avait entendu M. Burkhard, le maître est là et il t'appelle. Qu'est-ce que tu réponds? Bien sûr, tu peux réfléchir, mais n'oublie pas. N'oublie pas, quand tu entends que Dieu t'appelle, tu devras répondre. Il attend ta réponse. Il ne se contentera pas de t'entendre dire que tu réfléchis jusqu'à oublier la question. Dieu veut ta réponse. Dieu veut ta réponse. Dieu veut ta réponse. Dieu veut ta réponse. Dieu aujourd'hui cherche des missionnaires. Dieu aujourd'hui cherche des ouvriers. Dieu aujourd'hui lance un appel dans plusieurs cœurs. Sois attentif. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de ce que nous avons été sauvés. Nous te remercions, Seigneur Dieu, de ce que des missionnaires, à une époque peut-être reculée, mais des missionnaires ont risqué leur vie, ont donné leur vie pour que nous entendions ce message de Jésus-Christ, de l'Évangile qui aujourd'hui nous a sauvés. Te remercions pour ceux qui ont donné leur vie pour ça, qui n'ont pas craint et qui ont pris en considération la grande mission. Nous te remercions, Seigneur. Te prions, Seigneur, que nous ne soyons pas assez ingrats maintenant pour seulement attendre nous d'aller au ciel. Et nous pensons à ceux qui ont besoin auprès et au loin de ta parole. Seigneur, je te prie, Seigneur, que cet appel puisse être précis dans le cœur de ceux à qui tu le destines, et que chacun d'entre nous soit prêt aussi à faire ce que tu attends. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie au nom de Jésus. Touche les cœurs maintenant. Merci, Seigneur. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.